J'ai fait mon coming out. Donc je suis allée à la maison et j'ai dit à ma famille, je pense que je suis une femme. Et ma mère m'a dit, ok, si ça arrive, tu n'es plus le bienvenu dans cette maison.
Il y en a qui ont pris ça comme une attaque presque, alors que j'ai simplement affirmé ce que j'aimais. On marche main dans la main fièrement et voilà, c'est ce qui compte.
Je pense que c'est normal que dans la rue, si deux hommes se tiennent la main, qu'ils se fassent harceler ou qu'ils se fassent agresser. Moi, je trouve pas ça normal, il faut que ce soit comme tout le monde.
Ils sont comme tout le monde.
Oui, ils sont comme tout le monde, mais...
Enfin, qu'ils soient acceptés, voilà, acceptés comme par tout le monde.
Zoomer. La génération Z
au micro.
Zoomer, c'est un surnom pour la génération Z, ceux qui sont nés entre 1997 et 2010, avec les réseaux sociaux, et qui ont dû pousser sous les rafales de questions climatiques et sur la houle du Covid, puis des nouvelles d'Ukraine. Ils sont en secondaire ou dans les auditoires, parfois ce sont nos plus jeunes collègues. Qu'est-ce qui nous rapproche? Qu'est-ce qui nous distingue? Ils nous l'expliqueront eux-mêmes dans ce podcast, à nous, les 26 ans et plus. Cet épisode s'interroge sur l'expérience des jeunes personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres. Les coming out sont-ils plus faciles pour la génération Z que pour leurs aînés? Quelles difficultés émaillent leur parcours? Quelles évolutions ou reculs enregistrent chez nous les droits LGBT ou plutôt LGBTQIA+?
Maintenant, on va complexifier un peu la chose et on va parler du thème LGBTQIA+. Est-ce que ça vous parle ? Il faut trouver des mots en lien avec ces thématiques et les mettre là.
C'est dans une classe de première et deuxième secondaire que commence cet épisode, à l'Athénée Royal Jean Absil d'Etterbeek qui organisait ce jour-là une série d'animations sur le thème de l'inclusivité. Cet atelier est organisé par les chefs, une ASBL de défense des droits des jeunes LGBT. Quelle connaissance de ces termes a-t-on à 12 ou 13 ans? Plutôt bonne dans cette classe.
En fait, LGBT, c'est pour L pour lesbienne, G pour gay, LGB, B pour bisexuel, T pour transgenre, et Q+, ça je me souviens plus.
Donc le Q c'est pour cuir, le I c'est pour intersexe, le A c'est pour agent ou asexué, et le plus c'est pour tout ce qui est par exemple des personnes pansexuelles, des personnes non-binaires, des personnes... Enfin, c'est toute autre personne qui peut s'assimiler à cette communauté en fait, et qu'on ne peut pas nommer parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mots différents. Voilà.
Voilà pour la définition complète, décortiquée ensuite avec son lot de questions, de réflexions et surtout d'apprentissage.
On a appris beaucoup de vocabulaire, par exemple comme asexuel, qui aime bien être en couple mais qui ne veut pas avoir des rapports sexuels. Il y avait transsexuel, en fait, je ne savais pas qu'on disait plus transsexuel, mais maintenant on dit transgenre. Parce que transsexuel, c'était un nom d'un médicament.
Dans le médical,
donc voilà.
Ok. LGBTQIA+, vous connaissez des membres de cette communauté?
J'ai une amie à ma mère qui est homosexuelle, bi aussi, mais plus homosexuelle maintenant. Et franchement, enfin, moi je trouve ça totalement normal, je me pose pas de questions.
Non, moi je connais pas.
Moi oui. Enfin, j'ai une amie à moi qui est bisexuelle et moi ça me dérange pas du tout parce que du moment qu'elle est toujours gentille, ben ça...
Oui, ouais,
beaucoup
encore
de gens
d'autres
sur les réseaux sociaux, mais ils sont beaucoup harcelés et insultés. Mais moi, je trouve ça totalement normal. S'ils ont envie de faire ça, ben, qu'ils le fassent, c'est leur vie, quoi.
Comment on appelle ça, embêter ces personnes
par rapport...
Du cyberharcèlement,
la discrimination. Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse.
C'est pas normal, le cyberharcèlement, juste pour des personnes qui ont des attirances du même genre.
Ou alors, voilà. Ils sont juste transsexuels. Enfin,
c'est pas normal.
Et l'homophobie, vous êtes témoin parfois de d'actes d'homophobie, que ce soit dans...
Alors, oui, encore sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, non, parce que je ne vais pas souvent en transport en commun ou dans la rue, je suis souvent en voiture, donc je ne vois pas trop de trucs comme ça. Mais je sais que ça existe et que c'est grave.
Et ici, à l'école?
À l'école, oui. Il y a des gens qui disent « Ah, t'es homo, ah, pédé » ou des trucs comme ça. Mais moi, bien sûr, je vais leur dire que ça ne se fait pas et tout, mais voilà.
Dans les classes, ces questions sont souvent abordées via l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, parmi les missions de l'enseignement obligatoire. Mais d'une école à l'autre, elles passent parfois entre les mailles du filet.
Je
Bonsoir, je m'appelle Jérémy Gobin et je suis chargé de la communication pour IGLIO, qui est le réseau international pour les jeunes et les étudiants LGBTQI.
L'éducation inclusive est au cœur du travail de plaidoyer de ce réseau comptant une centaine d'organisations dans plus de 40 pays du Conseil de l'Europe. D'après son dernier rapport, un jeune Européen sur deux a déjà été harcelé à l'école en raison de son orientation sexuelle ou identité de genre, sans progrès sur ce front depuis 2018.
Ça a été démontré, il y a des données qui prouvent que l'éducation inclusive des thématiques LGBTQI, que les représentations positives liées aux thématiques LGBTQI ont un impact extrêmement positif justement sur l'acceptation des jeunes LGBTQI et qu'aussi ça diminue les taux de violence, de harcèlement scolaire liés à ça. Au plus on en parle finalement, au plus les personnes sont familières avec le sujet et au moins il y a de violences liées à ça. Et puis je parle pas seulement des élèves, hein, je parle aussi des professeurs, des personnes qui travaillent dans les écoles. Voilà, par exemple, j'en reviens à la Belgique, à l'heure actuelle il n'y a pas encore de formation obligatoire pour les professeurs ou les membres du personnel scolaire, ce qui peut vouloir dire que certaines personnes ne vont pas être à même de réagir en cas de harcèlement lié à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, elles ne vont pas forcément être à même d'en parler de manière positive ou en tout cas en respectant les termes, en respectant les droits des personnes et en respectant les élèves dans leur classe qui pourraient être LGBTQI.
De façon plus générale, ce sont les jeunes de 15 à 24 ans de la communauté LGBT qui sont plus exposés à la discrimination et la violence.
D'après notre analyse chez IGLIO et ILGA Europe de l'étude qui a été menée par l'Agence européenne des droits fondamentaux sur justement les droits des personnes LGBTQI, à l'heure actuelle, un tiers des jeunes LGBTQI indiquent avoir été agressés physiquement ou sexuellement. Un jeune LGBTQI sur 10 déclare avoir rencontré des difficultés de logement ou avoir expérimenté du sans-abrisme. Mais ici, le chiffre est encore plus élevé pour les personnes trans. Il s'élève à 17%, ce qui est vraiment énorme. Et seulement 11% des jeunes LGBTQI de 18 à 24 ans se déclarent très ouverts par rapport au fait d'être très LGBTQI. Donc ces données-là, c'est vraiment pour l'ensemble de l'Union européenne.
La Belgique, elle, fait figure de bon élève en matière d'avancée des droits LGBT, du moins sur le papier.
Elle arrive troisième au classement qui est réalisé chaque année par ILGA Europe, juste derrière le Danemark et Malte. Mais bon, ça c'est purement au niveau des lois. Au niveau légal, évidemment, il y a toujours une différence entre les lois et la pratique. Il existe toujours en Belgique de l'homophobie, de la transphobie, des violences, du harcèlement scolaire, du sans-abrisme. Et souvent dans ces cas-là, ce sont les jeunes LGBTQI qui sont les plus vulnérables dans ce genre de situation.
Oui, bonjour Mohamed, c'est Catherine Tonero. Voilà, je viens d'arriver devant la porte.
Je vous ouvre.
Bonjour. Bonjour.
Nous arrivons dans un lieu tenu secret pour la sécurité de ceux qui y séjournent. Le Refuge Bruxelles est une structure d'hébergement d'urgence et d'accompagnement pour les jeunes LGBT de 18 à 25 ans. Ils sont en situation d'exclusion en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, ou pour toute autre raison liée.
Je veux pas du yaourt, blanc, fromage, tout ça.
Le fromage, non.
Donc chaque jeudi, on vient ici pour faire des courses.
Pour s'approvisionner.
Exactement.
Ça nous aide beaucoup, hein.
Exactement. Surtout au début, t'as pas beaucoup de moyens, donc c'est vraiment quelque chose qui nous aide.
Les jeunes qui passent ici peuvent profiter d'une distribution gratuite de nourriture, mais aussi compter sur un soutien dans leur démarche, un accès à des soins de santé ou encore l'organisation d'activités socio-culturelles. Jusqu'à 14 personnes peuvent aussi loger ici, 3 mois maximum.
Là, ça va faire un mois que je suis ici.
David fait partie des personnes actuellement hébergées au refuge.
Je suis italien. Belge-italien. Je viens d'une famille très croyante. Depuis que je suis sorti en couple avec ma copine, qui est une femme trans, on est bien ensemble et on passe de beaux moments. J'ai voulu célébrer ces beaux moments en faisant une photo ensemble et en la postant simplement sur les réseaux. Et suite à ça, j'ai eu des retours de mon frère, de ma famille, de mes proches, des insultes, des menaces. Un rejet, un refus de discussion même. Je suis allé, c'est triste parce que de base, on était très proches, toujours soudés, toujours ensemble. Et depuis, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien. C'est quelque chose que je souhaite à personne, simplement.
qu'est-ce que tu es venu chercher et que tu as trouvé surtout ici?
Surtout le refuge, j'ai envie de dire. Et du soutien, parce qu'ici, on partage tous à peu près les mêmes histoires. Et c'est ça qui est beau. Du coup, il y a du soutien vis-à-vis de tout le monde.
To parade around and let the boys see me.
Okay.
Because I look down good today.
Dans le petit jardin du refuge, le rire de Lloyd, originaire de Jamaïque, et de Rose, une jeune transgenre de Flandre occidentale. Elle a fait son coming out à 24 ans. Ses parents non plus ne l'ont pas accepté. Aujourd'hui, elle en a fait une force.
Vous savez, quand j'ai grandi dans mon village, en étant sensible, en étant queer, ce n'était pas autorisé. Ici, à Bruxelles, je suis maintenant dans une ville où je me retrouve enfin et je me dis, tu as intérêt à faire du bruit, à être queer, parce que tu dois être toi-même. Et les gens viendront à toi, quoi qu'il arrive.
Mais tu dois toujours faire face à des commentaires, de la discrimination. Ça fait aussi partie de ta vie, malgré tout.
Bien sûr, pas dans la vraie vie, mais en ligne. C'est pour ça que je ne vais plus en ligne. Oui, beaucoup de transphobie. Les jeunes filles trans sont des cibles. Ça existera toujours. Il existera toujours ces familles qui diront qu'être gay, ça ne va pas. Qu'être trans, c'est quoi ça? Qu'il n'existe que deux genres. Et que c'est soit un homme stoïque, peu importe ce que ça veut dire, soit une femme sensible ou pleurant tout le temps.
We're past that. It's 2023.
Non, vous savez, nous avons dépassé cela. Nous sommes en 2023. Et j'imagine que nous sommes ici pour montrer au monde qu'il y a plus, que c'est un spectre. Mais c'est clairement générationnel. Et moi, je crois toujours que peu importe l'âge qu'ils ont, les gens peuvent toujours apprendre. Et même si c'est difficile à faire, posez des questions. Écoutez simplement votre enfant, écoutez-les et ce qu'ils ont à dire, parce que c'est important pour vous aussi. Et si vous êtes suffisamment impliqué comme parent, vous allez gérer cela. Vous verrez, car tout ce qui importe, c'est l'amour que vous portez à votre enfant. C'est tout ce qui compte.
Depuis qu'il a ouvert ses portes en 2018, le refuge Bruxelles reçoit en moyenne 2 demandes chaque semaine de jeunes en difficulté, quelles qu'elles soient. Il est actuellement en travaux pour augmenter sa capacité d'hébergement, preuve s'il en faut que les besoins restent grands.
Au revoir, Rosy.
La Belgique est aussi une destination que choisissent de nombreux demandeurs d'asile LGBT, fuyant des persécutions. Des violences qui ne s'arrêtent pas pour autant dans le pays d'accueil, où ils peuvent aussi être marginalisés en raison de leur origine. On appelle cela la discrimination intersectionnelle. Toute une série d'associations luttent contre ce phénomène chez nous, dont Balkan LGBT, un espace de rencontre et d'accompagnement de la communauté originaire des Balkans.
Très court, je vais vous expliquer comment on avait créé Balkan LGBT. Je vais vous expliquer un peu plus tard, après le film.
L'organisation projette aujourd'hui le documentaire Ma vie, retraçant le vécu de personnes qui ont immigré en Belgique en raison de leur orientation sexuelle. Le plus jeune téléspectateur de la salle a 23 ans et vient d'un petit village du nord de la Roumanie. Nous attendons la fin du film pour lui tendre notre micro dans la pièce d'à côté.
Ouais, on s'installe ici.
Moi, ça me va bien, hein. J'aime beaucoup.
Zoom sur Laurentiu.
J'ai participé à beaucoup des interviews avec ma mère, comme c'est une chanteuse.
Tu as déjà vu des micros?
Ah oui, j'ai pas peur d'un micro. Hein. Je m'appelle Moldovan Laurentiu Narcis. J'ai l'âge de 23 ans. Je viens de Roumanie, originale de Bistrița Năsăud. Aujourd'hui, je suis en train de faire mes papiers et de rentrer en l'ordre, parce que quand même, on est dans un pays européen.
Est-ce que tu es en Belgique depuis combien d'années?
Ça fait 7 mois que j'habite à Bruxelles. J'ai déménagé ici de Biarritz.
Donc ton parcours, ça a été Roumanie, France, Belgique?
Oui, j'ai parti à l'âge de 18 ans, mais tout au début, j'aimerais commencer avec mon histoire. En fait, mes parents...
Laurentiu n'a pas connu sa mère biologique. Après, il a été adopté avant d'entrer à 11 ans à l'orphelinat où il sera maltraité durant des années. À 18 ans, il décide de s'enfuir.
À l'âge de 18 ans, quand je suis parti, j'avais pas d'argent, j'avais pas de vêtements. J'étais vraiment une personne sur la rue. J'ai fait le voyage de Roumanie jusqu'en France au pied. Je me suis en sorti bien. J'avais mon objectif d'aller tout droit et c'est ce que j'avais fait. Je suis arrivé à Biarritz et j'ai tombé amoureux d'un endroit que je ne pensais pas du tout que ça pourrait tourner à moi une autre vie. C'est là que j'ai appris à parler français, c'est là que j'ai appris à me débrouiller et d'être la personne que je suis aujourd'hui.
Et c'est qui cette personne ?
Aujourd'hui, je suis la personne que j'entendais de moi-même en fait d'être. J'ai un travail, j'ai une famille. J'étais demandé en mariage au fin du mois de janvier. Ça va être en Italie. C'est quelque chose que j'ai rêvé toujours. Parce qu'en Roumanie, en fait, si t'es gay, ça veut dire que t'es malade, t'es jugé par les personnes. Tu peux pas être toi-même, tu risques de te faire attaquer sur les rues.
Malgré des progrès dans la législation des droits LGBT dès les années 2000, la Roumanie reste un pays très conservateur. Elle a récemment voté un projet de loi transphobe qui, s'il est approuvé, interdira de parler d'identité de genre à l'école. Tu as découvert très tôt ton homosexualité.
Oui, je l'ai découvert à l'âge de 6 ans. J'étais à la campagne chez ma grand-mère. Pour moi, de m'assumer que je suis gay, c'était quelque chose de naturel. J'étais né comme ça, je savais que je serais comme ça et je ne me suis jamais dit que je suis malade, même si les autres y pensaient ça.
Parce que ta maman adoptive ne t'a jamais soutenue. En tant que chanteuse roumaine traditionnelle, ton homosexualité l'a gênée.
Tout à fait, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, d'être un chanteur ou d'être une personne connue en Roumanie et d'avoir un enfant qui est gay, ça peut bruire en fait la perception de les autres à côté de toi. T'es jugé, t'es vraiment beaucoup jugé. Et ma mère, je suppose, une fois que je suis rentrée dans l'orphelinat, en fait, toute cette pression qu'il avait sur ses épaules, il se relâchait. Ça m'a fait mal, en fait, parce que j'ai vécu avec souffrance. Je suis passé par une période de ma vie quand je m'occupais avec des morceaux de glace ou des lames sur mes mains. Aujourd'hui, j'ai essayé de couvrir ça avec des tatouages, mais il y a quelque chose en nous qui nous fait mal et on souffre même aujourd'hui pour ça.
Tu n'es plus du tout en contact avec elle aujourd'hui ?
Non, aujourd'hui non. J'ai envoyé mes nouvelles pour lui dire j'étais demandé en mariage. J'ai envoyé des photos. J'ai envoyé même un message pour la fête de mère en Roumanie le 8 mars. Mais non, il n'y a pas de réponse. Elle a vu mes messages, mais on ne se parle pas du tout.
Malgré toutes les difficultés qui ont jalonné son parcours, aujourd'hui, à Bruxelles, Laurentiu dit vivre un rêve éveillé.
La liberté que je l'ai ici, c'est, pour moi, c'est un rêve en fait. Genre, l'amitié ici, ça se fait vraiment super facilement. N'importe que tu ailles dans une boîte gay ou dans une boîte hétéro, ici, c'est une ambiance unique et une ambiance que je ne pourrais pas l'expliquer. Parce que tu peux te faire des amis de Buenos Aires, de Paris, tu peux te faire des amis d'ici ou tu peux te faire des amis de Maroc.
Sans te sentir jugé, ou est-ce que tu es encore exposé parfois, en Belgique même, à de l'homophobie ?
Non, pas du tout. Parce que Bruxelles, c'est la capitale européenne, on est bien ici. Je suis fier d'être ici, je suis fier d'avoir des amis d'ici et je suis fier d'avoir un mari ou une copain qui est flamand, qui me rend vraiment heureux.
Quel avenir on peut te souhaiter ?
Alors, une de mes projets serait réaliser ma livre où je vais parler de mon voyage en détail, de Roumanie jusqu'en France. Je vais faire une biographie en fait. J'aimerais faire mon histoire publique pour faire découvrir les autres aussi mon espoir. Comment je suis arrivé dans cette phase de ma vie où je me retrouve aujourd'hui, de faire comprendre en fait que même si on est gay, qu'on vit en fait nos rêves et qu'on fait ce qu'on aime à faire et on aide tout le monde.
On te souhaite vite succès. Tu parles un peu flamand aussi ?
Ja, ik spreek een beetje Nederlands. Dankjewel.
Donc, roumain, français, néerlandais
anglais, je parle chinois aussi, mandarin. Je parle aussi un peu italien et espagnol.
Là, c'est important.
Le portrait de Laurentiu, qui a plus d'un tour dans son sac.
Je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai dit, mais... Parce que j'ai eu vraiment des émotions. Hein.
Encore plein de projets et surtout de rêves à réaliser. Rejoins notre galerie de Zoomer.
Zoomer.
Zoomer, la génération Z au micro, c'est un podcast RTBF, la première Euranet+, un épisode de
Catherine Tonnero
et Christophe Bernard, disponible sur Ovio, la première.be et vos plateformes de podcast habituelles.
Mieux comprendre l'Europe avec Euranet+, le premier réseau d'information européenne.